Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, l'enlèvement de la sœur Sue-Hélène Tennyson de la communauté des religieuses de la paroisse de Yalgo dans le diocèse de Kaya. À la une également l'installation des membres de la Task Force. Ils n'ont plus que 3 semaines pour finaliser la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Et puis, conséquence du coup d'État du 24 janvier dernier, les États-Unis suspendent le MCC au Burkina. Le pays perd ainsi 593 milliards de francs CFA. Et puis, on parlera du rôle des médias en temps de crise avec notre invité du jour, Youssef Ouedraogo, journaliste et écrivain. Il vient de publier un essai littéraire intitulé « Crise sociopolitique en Afrique, rôle des médias dans l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso ». Voilà pour vos titres. Bienvenue pour ce journal. En sécurité au Burkina Faso, la sœur Sue-Hélène Tennyson de la Congrégation des sœurs Marianites de Sainte-Croix a été enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril 2022 par des hommes armés non identifiés, apprend-on dans un communiqué signé Monseigneur Théophile Naré, évêque de Kaya. En effet, dans la nuit du lundi au mardi, des hommes armés non identifiés ont visité la communauté religieuse de la paroisse de Yalgo dans le diocèse de Kaya, où ils ont enlevé la sœur Sue-Hélène Tennyson de la congrégation des sœurs Marianites de Sainte-Croix. Âgée de 83 ans et de nationalité américaine, elle était en service depuis octobre 2014 à Yalgo. La sœur Sue-Hélène a été emmenée vers une destination inconnue par ses ravisseurs qui, avant de partir, ont vandalisé des salles, saboté le véhicule de la communauté qu'ils ont tenté d'emporter, précise le communiqué de l'évêché de Kaya. Et puis justement, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Premier ministre Albert Ouedraogo a installé ce mardi les membres de la Task Force pour l'opérationnalisation de la lutte contre le terrorisme. La Task Force dispose de 3 semaines pour finaliser la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme assortie d'actions concrètes qui puissent permettre de mieux prendre en charge les questions sécuritaires. Le colonel-major à la retraite Théodore Nabapalé est le coordonnateur de la Task Force. Et puis, incendie de Barzemaki à Bekedo dans le centre-est du Burkina, le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Tenkodgo, dans un communiqué rendu public ce mardi 5 avril, annonce l'ouverture d'une enquête par le parquet en vue d'élucider les faits et situer les responsabilités suite aux actes de violence, de vandalisme, de destruction et d'incendie de bars dans la ville de Bekedo. Toujours selon le communiqué, 31 personnes ont été interpellées et l'enquête suit son cours. Le parquet de Tenkodgo invite toute personne victime ou témoin des incidents intervenus à se rendre spontanément au commissariat central de la police de Tenkodgo. Et puis, suite à la présentation de la feuille de route par le chef du gouvernement, le gouvernement a réagi aux actes de vandalisme à Bekedo. Des arrestations ont eu lieu. Les auteurs seront traités conformément à la loi, a déclaré le Premier ministre Albert Ouedraogo devant les députés. Je vous propose un extrait.
Le gouvernement déplore ces actes de vandalisme qui contribuent justement à l'effritement de la cohésion sociale. Alors, il faut également dire que les investigations sont en cours, donc, et les auteurs, bien sûr, seront traités, de ces actes-là seront traités conformément à la loi. Et je pense que on vient de me dire qu'il y a eu des arrestations déjà qui ont été procédées.
Conséquence du coup d'État du 24 janvier dernier, le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation, MCC, a voté le 31 mars dernier la suspension de l'assistance du MCC au Burkina et son éligibilité à un pacte régional simultané à la suite du récent coup d'État du pays, peut-on lire dans un communiqué publié par le MCC. Le Burkina Faso perd ainsi plus de 500 milliards de francs CFA de financement. Je vous propose des détails avec Yaya Diomondé.
Le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a voté le 31 mars la suspension de l'assistance du MCC au Burkina Faso et son éligibilité à un pacte régional simultané à la suite d'un récent coup d'État du pays, peut-on lire dans un communiqué publié par le MCC. Selon le Millennium Challenge Corporation, ces événements vont à l'encontre de l'engagement du MCC envers la gouvernance démocratique et le respect de l'État de droit. Tous les pays partenaires du MCC doivent démontrer un engagement continu envers ces principes pour rester éligible aux investissements du MCC, poursuit le communiqué. Pour cette deuxième phase, le Burkina Faso bénéficiait de 500 millions de dollars, soit plus de 296 milliards de francs CFA en compact bilatéral. Le pays était bénéficiaire du même montant dans le compact régional, ce qui faisait un cumul de 596 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso a mis en œuvre avec succès un premier compact avec le MCC de juillet 2008 à juillet 2014. Le conseil d'administration du MCC a désélectionné le Burkina Faso les années suivantes et le 13 août 2020, le MCC et le gouvernement du Burkina Faso ont signé un deuxième compact, a rappelé le MCC, et d'indiquer que le deuxième compact était composé de trois projets. Le projet de renforcement de l'efficacité du secteur de l'électricité, le projet d'approvisionnement en électricité rentable et fiable, et le projet de développement et d'accès au réseau.
On parle musique à la suite de ce journal. Une nouvelle œuvre discographique vient d'être mise sur le marché. Wena Kontengalafi, c'est le titre du premier album du chanteur Gilbert Kabouré. La dédicace de l'album s'est déroulée dimanche dernier à Ouagadougou. Détail avec Régis Bonny.
Chanté exclusivement en moré et composé de 6 titres, cet album traite de l'apport et de l'importance de Dieu dans la vie de l'homme. L'artiste, qui évolue uniquement dans le gospel, remercie le Seigneur qui a été, qui est et qui sera toujours sa source d'inspiration. Gilbert Kabouré, chanteur.
On va demander à Dieu pour que le Burkina regagne la paix. C'est parce qu'il y a la paix qu'on peut se promener pour adorer Dieu. On va demander à Dieu que d'avoir pitié du Burkina et qu'il réponde à nos prières au nom de Jésus-Christ.
Le parrain de l'album se dit satisfait et comblé de soutenir et parrainer l'artiste qui donne sa voix pour louer Dieu. François Guira.
L'œuvre de ceux qui chantent pour l'Éternel, il faut reconnaître que c'est une œuvre divine, en ce sens que la Bible nous parle donc de l'importance de la louange dans la musique. Et depuis Yubal, fils de Lémec, qui est l'ancêtre donc, l'inventeur de la musique a toujours fait partie non seulement de la culture, mais également de tout ce qui est lié à l'adoration dans le temple.
Le chanteur Gilbert Kabouré débute sa carrière en 2022 et sort ainsi son premier album. L'album est disponible au prix unitaire de 2000 francs CFA à la Radio Évangélique et Développement à Ouagadougou.
Page triste de ce journal, nous revenons sur l'inhumation du fondateur du réseau africain des jeunes contre le sida, LAJS, Bayon Boué Bakiono, décédé dans la nuit du samedi 2 avril des suites de maladie à l'âge de 52 ans. Bayon Boué Bakiono, affectueusement appelé Bibi, a été conduit à sa dernière demeure hier lundi 4 avril. Qui était-il? Proche, ami, collaborateur et connaissance témoigne dans ce reportage signé Moumouni Tamboura.
Bayon Boué Bakiono, connu sous le nom de Bibi, est un activiste des entreprises sociales à la tête de la radio Ouaga FM de 2014 à 2017. Très connu dans le domaine de la lutte contre le VIH-SIDA à travers son association dénommée Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement, RAJS, il se définit comme un activiste des entreprises sociales.
Que retirer de notre cher ami et collègue Bibi, un homme taquin et surtout très engagé sur la question des adolescents et des jeunes, notamment leur santé. Débatteur éternel, amical sur les sujets de développement et sur les sujets d'actualité. Toujours engagé pour le bien-être des autres. Bibi, que Dieu protège ta famille. Bibi, repose en paix.
Je suis docteur Nikiemé Edwige, géographe de la santé, J'ai travaillé pendant quelques années avec Bakiono Bayombwe, que nous portons en terre aujourd'hui. Je retiens de lui que c'était vraiment un battant, un homme qui a su lever haut la lutte en faveur de jeunes et qui a travaillé vraiment en faveur de cette jeunesse-là au niveau du Burkina Faso et aussi pour la sous-région. Il a formé beaucoup de jeunes ici présents, dont moi-même.
Je suis Ouedraogo Mohamed Wendegoudi, coordinateur régional de RSIS au niveau de Tenkodogo dans la région du Centre-Est. Nous sommes là pour témoigner combien il a été important.
Je m'appelle Ahmed Wangré, je suis chef de département chargé des entités territoriales au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST. Je prends la parole au nom du secrétaire permanent par intérim pour dire que c'est avec consternation que nous avons appris la disparition d'une grande personnalité. Un leader confirmé de jeunesse, Bayombwe Bakiono, qui, durant plus de 30 ans, a œuvré pour l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Donc nous voulons saluer donc l'homme à sa juste valeur et souhaiter que Dieu l'accueille dans son royaume céleste et lui pardonne ses péchés et donc que sa famille également, Dieu veille sur eux.
Né le 3 janvier 1970, Bagnombwe Bakiono est marié et père de 3 enfants. 3 avril 2022, tout se conjuguera désormais au passé sur Bagnombwe Bakiono. Le 16 juillet prochain, il devrait patronner la Journée de l'Excellence, activité initiée il y a 6 ans. Une activité qui vise à un partage d'expériences des aînés. Pour perpétrer sa mémoire, les jeunes le retiennent toujours comme le patron.
Or, de chez nous au Mali, dans un rapport publié ce mardi, Human Rights Watch affirme que des soldats maliens associés à des mercenaires étrangers ont exécuté sommairement 300 civils fin mars dans une localité du centre du Mali. L'ONG décrit un massacre perpétré sur plusieurs jours entre le 27 et le 31 mars dans la localité de Moura, entre Mopti et Djéné, une région qui est l'un des principaux foyers des violences sahéliennes. Ces faits sont le pire épisode d'atrocités commises depuis le déchaînement des violences dans le pays en 2012, précise l'ONG. Corinne Doufka, directrice pour le Sahel à Human Rights Watch, indique que le gouvernement malien doit de façon urgente et impartiale ouvrir une enquête sur ces meurtres de masse, y compris sur le rôle de soldats étrangers. Pour la crédibilité de ces investigations, les autorités maliennes doivent se faire assister de l'Union africaine et des Nations unies, souligne-t-elle. Et puis, le communauté international de la Croix-Rouge a alerté mardi sur la crise alimentaire majeure qui touche actuellement l'Afrique. Quelque 346 millions de personnes, soit plus d'un Africain sur 4, souffrent de faim alarmante et ce chiffre va probablement augmenter dans les mois à venir, précise la Croix-Rouge. Cette crise alimentaire frappe l'ensemble du continent depuis l'Éthiopie et la Somalie, touchées par la sécheresse jusqu'à la Mauritanie et le Burkina Faso. Les fonds manquent pour y répondre, s'inquiète la Croix-Rouge. Le conflit en Ukraine a contribué à la hausse des prix alimentaires et du carburant et a désorganisé des chaînes d'approvisionnement, amplifiant les effets de la pandémie de coronavirus. Une crise qui passe inaperçue en raison de la guerre en Ukraine. Le directeur du monde des opérations de la Croix-Rouge, Dominique Stilat, a ajouté que l'attention portée au terrible sort des Ukrainiens ne devrait pas empêcher le monde de voir d'autres crises. Et pour Nigeria, le célèbre militant athée nigérien Muhammad Mubarak Bala a plaidé coupable de blasphème ce mardi devant un tribunal au nord de son pays qui l'a condamné à 24 ans de prison. Rapporte ce mardi l'agence France Presse, Muhammad Mubarak Bala, âgé de 37 ans, est président de l'Association des humanistes du Nigeria. Il avait été arrêté en avril 2020 pour avoir écrit des messages sur Facebook critiquant l'islam et son prophète. Et puis au Darfour, le procès d'Ali Mohamed Ali Abdelrahman a débuté le 5 avril devant la Cour pénale internationale. L'ancien chef de milice Djiwad plaide non coupable des 31 chefs d'accusation pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis entre 2003 et 2004 au Darfour, de retenue contre lui, un conflit qui n'en finit pas et qui a causé la mort de près de 300 000 personnes.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité du jour est Youssef Ouédraogo, journaliste et écrivain. Il vient de publier un essai littéraire qui traite du rôle des médias en temps de crise, intitulé « Crise sociopolitique en Afrique, rôle des médias dans l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso ». Cet essai littéraire se veut être un aide-mémoire pour les professionnels de l'information. L'auteur s'exprime sur son œuvre « L'importance des médias dans nos sociétés ». Il s'exprime également sur le traitement de l'information par les médias occidentaux sur la crise ukrainienne. Youssef Ouédraogo est interrogé par Régis Boni.
Youssef Ouédraogo, bonjour.
Oui, bonjour.
Parlez-nous de votre dernière œuvre.
Merci pour l'invitation que vous me donnez. L'ouvrage est intitulé « Crise sociopolitique en Afrique, rôle des médias dans l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso ». C'est un essai composé donc de 113 pages qui est subdivisé donc en trois chapitres. Le premier chapitre fait ce que nous appelons l'évaluation des actions des médias pendant la crise sociopolitique que le Burkina Faso soit connu en 2014. Le deuxième chapitre essaie de revenir sur les expériences que les médias ont vécues dans les autres pays lors des crises sociopolitiques. Et puis la troisième partie de l'ouvrage essaie de faire ce que nous appelons les perspectives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les médias en tant qu'intermédiaires entre les populations et les dirigeants, comment les médias peuvent projeter un avenir radieux pour les populations africaines. Donc voilà les perspectives que nous développons, comment les médias peuvent construire un état des droits, comment les médias peuvent consolider la question de la démocratie dans nos pays, et puis évidemment en termes de perspectives, est-ce que après la crise sociopolitique que le Burkina Faso a connue en 2014, est-ce que les médias ont pris conscience de leur rôle, est-ce que les médias ont capitalisé aussi un certain nombre d'acquis, parce que nous étions dans un contexte où les partis politiques, les organisations de la société civile ont perdu peu à peu leur crédibilité auprès donc des populations et que les médias étaient devenus en quelque sorte des entités sur lesquelles se cristallisaient en fait les espoirs, les espérances. D'accord. Et même parfois les situations difficiles que les populations vivaient.
Après le coup d'État qui s'est passé le 24 janvier dernier, selon vous, est-ce que les médias ont joué leur rôle?
Oui, absolument. Et je crois que le rôle des médias, c'est vrai que ça varie en fonction donc des événements que chaque pays vit, mais le rôle principal des médias, c'est d'abord la circulation de l'information. Et je crois qu'à ce niveau, les médias burkinabés ont fait un travail excellent quant à la circulation de l'information. Maintenant, comme nous l'avons dit, pour la construction de ce pays, il y a évidemment la contribution des médias. Et à ce niveau, j'estime que les médias doivent avoir une participation plus active dans la construction de notre pays, dans la mesure où, quand vous faites l'histoire de ce pays, on se rend compte que c'est une histoire qui est marquée par beaucoup de crises, dont la dernière, le coup d'État. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle donc de forces vives, quand on parle des entités aussi sur lesquelles on peut s'appuyer pour espérer donc, on va dire, un Burkina nouveau, évidemment, les médias font partie. Donc, les médias ne pourront pas, dans cette situation exceptionnelle, se contenter seulement de diffuser l'information, mais les médias doivent prendre une part active dans la construction de notre pays. Les médias sont des éléments sur qui on peut compter pour espérer donc un avenir meilleur dans nos pays.
D'accord. Donc, ils disent que certains médias en temps de crise font la propagande de certains partis politiques. Alors, est-ce le cas au Burkina Faso ou en Afrique?
Nous avons certainement en fait réfléchi sur la question dans notre ouvrage où il était question de voir dans les actions que les médias ont menées, est-ce que à un moment donné les médias n'ont pas outrepassé leurs prérogatives pour à un moment donné se positionner comme étant des canaux qui ont été utilisés par les hommes politiques pour atteindre des objectifs plus ou moins dissimulés. Et évidemment, le constat a été fait. Et inconsciemment, certains journalistes ou certains médias de façon générale se font utiliser par les hommes politiques pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et d'où la nécessité pour les médias à un moment donné de savoir qu'est-ce qu'il faut faire passer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire passer.
Selon vous, quelle lecture faites-vous des médias occidentaux? Comment gèrent-ils, selon vous, la crise ukrainienne?
Par rapport à la crise ukrainienne, c'est une occasion pour nous en tant que journalistes et pour les analystes du monde de la communication de se rendre compte que les médias occidentaux ne sont pas forcément des exemples. Parce que quand on a vu comment on a réduit au silence certains médias qui ne cadraient pas avec avec l'idéologie, la propagande des Occidentaux, je vais parler de Rupia Today, qui a été donc réduit au silence pratiquement en Europe. Quand on voit les angles qui sont choisis par les médias occidentaux pour diaboliser Poutine avec son ambition peut-être de conquérir l'Ukraine, quand on voit les invités qui sont sur les plateaux de débat, quand on voit les idées directrices qui sont développées, on a parfois l'impression que les médias occidentaux ont choisi un camp, alors que les principes sacro-saints de ce mythe nous demandent à ce qu'on équilibre l'information, ce qui n'est pas fait avec ces médias. Et ça montre l'influence de ces médias-là sur les populations. Aujourd'hui, si vous faites un sondage dans nos pays africains ou même en Europe, vous allez vous rendre compte que la Russie sera donc mise au banc des accusés. On va considérer la Russie comme un pays envahisseur sans toutefois comprendre quelles ont été les motivations de Poutine, quelles sont les raisons réelles de ce conflit. Donc ça montre à quel point les médias que nous prenons pour des exemples ne sont pas forcément des exemples, et ça montre aussi qu'en temps de crise, ces médias-là sont parfois à l'origine des crises.
Youssef Drago, merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de la rédaction.
C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme à l'écoute de Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.